Chers amis, bonjour pour cette 12e et dernière leçon de notre petit parcours dans les paraboles. Nous sommes le lundi 21 décembre, proche de Noël. Je commence par rappeler brièvement ce que nous avons vu au dernier cours. La parabole de l'ouvrier de la 11e heure, nous nous souvenons qu'elle était propre à Matthieu en son chapitre 20 et qu'elle se terminait par cette remarque du maître de la vigne aux premiers arrivés: mon ami, compagnon, ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? Et nous avions vu que ça illustrait chez Matthieu une belle situation triangulaire, au sens où les ouvriers de la première heure sont comme ce troisième personnage qui peine à se réjouir de la relation positive et pleine de magnanimité du maître de la vigne envers le deuxième personnage, qui sont les derniers arrivés. Puis nous avions vu une autre parabole engageant encore l'image de la vigne, celle des vignerons homicides, qui, elle, se trouve chez les trois synoptiques. Elle appartient à la triple tradition, puisqu'on la trouve à la fois chez Matthieu, chapitre 21, en Marc 12 et en Luc 20. Je reprends rapidement à partir de ma synopse qui donne en regard les trois versions respectives des trois synoptiques quelques éléments. D'abord, le genre parabolique est d'emblée signalé par les trois. C'est le premier verset, aussi bien en Matthieu qu'en Marc qu'en Luc. Écoutez une autre parabole, ou bien il se mit à leur parler en parabole, ou chez lui qu'il se mit à dire au peuple cette parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne, etc. Et nous savons que le travail préparatoire de cet homme pour manifester sa sollicitude, son intérêt pour sa vigne, est exprimé en des termes tirés du champ de la vigne en Isaïe au chapitre 5. Tandis que Luc, qui s'adresse à des auditeurs non-juifs, ne peut pas présupposer qu'ils connaissent ce champ de la vigne, et donc il n'y fait pas allusion. Il dit « un homme planta une vigne », point. Et il la confia à des vignerons. Tandis que Matthieu et Marc ont rappelé les termes d'Isaïe. « Planta une vigne, entoura une clôture, creusa un pressoir, bâtit une tour », etc. Toujours est-il, il la confia à ses vignerons, il part au loin. Et puis, lorsqu'approche le temps des fruits, il envoie ses serviteurs, selon Matthieu, un serviteur, d'abord selon Marc ou Luc, et puis l'attitude des gens qui doivent livrer les fruits de la vigne, les vignerons, eh bien, est décrite en termes rudes chez Matthieu et Marc. Bâtir l'un, tuer l'autre, lapider un autre chez Matthieu, bâtir, envoyèrent les mains vides, et puis plus tard, chez Marc, frappèrent à la tête, outragèrent aussi cet autre serviteur, finalement un troisième, ils le tuèrent et tuèrent les autres. Donc il y a chez Matthieu et Marc vraiment la mention du meurtre. Tandis que Luc est toujours, assez souvent porté à adoucir les traits de ce qui est rude et un peu cruel. Par exemple, dans le récit de la Passion, globalement, chez Luc, il y a plus de retenue sur les détails, frappants, outrageants de ce qui est infligé à Jésus. Ceci dit, donc, ici, on voit qu'il est question de battre, d'outrager, et puis blesser. Et il est jeté dehors. Mais la mention du meurtre n'est pas présente chez Luc. Puis, la manière dont le dernier envoi se fait, après qu'il ait été dit, des serviteurs, d'autres serviteurs, beaucoup d'autres encore, chez Matthieu et Marc, finalement, il leur envoya, dit Matthieu, son fils. Marc dit, il avait encore quelqu'un, un fils bien-aimé. Il leur envoya le dernier. Chez Luc, le Seigneur de la vigne dit, là il réintroduit la mention de Dieu, le Seigneur de la vigne, en tout cas explicitement, « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. C'est exactement l'expression de la révélation de la théophanie du baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé de la transfiguration. Écoutez-le. Donc, pour Luc, là, dans son verset 13, élevé toute ambiguïté concernant l'interprétation, le maître de la vigne, c'est bien Dieu, et le fils envoyé, c'est bien son fils bien-aimé, et nous comprenons dans le contexte de l'évangile qu'il ne peut être que Jésus. Puis, ce qui advient à ce fils bien-aimé, là, pour le coup, il est jeté hors de la vigne et tué. Tantôt, on le jette hors de la vigne, puis on le tue. Tantôt, on le tue, puis on le jette hors de la vigne. Ce sont des variantes peu importantes. On voit la brutalité du traitement. Et puis, lorsqu'il viendra, le Seigneur de la vigne, dit Matthieu, c'est là qu'il introduit l'expression « le Seigneur de la vigne », que fera-t-il à ces vignerons-là ? Même question pour chez Marthe et chez Luc. Chez Matthieu, ils lui disent, ceux qui entendent la parabole sont invités à répondre, ils lui disent « c'est misérable, misérablement, il les fera périr et sa vigne, il la confiera à d'autres vignerons qui lui remettront les fruits en leur temps. » Donc là, c'est plus développé que chez Marthe et Luc, qui dit simplement « il viendra, fera périr les vignerons, donnera la vigne à d'autres. » Ici, il est question d'autres qui remettront en leur temps les fruits de la vigne. Et de même, Jésus continue chez Matthieu, après la citation « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre rejetée des bâtisseurs est devenue pierre d'angle ? C'est là l'œuvre du Seigneur admirable à nos yeux. » Nous avions vu que ça vient du psaume 118. Après avoir dit cela, Matthieu, à la différence des deux autres, ajoute « C'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » Donc, la perspective de l'ouverture du temps ecclésial, si je puis dire, où la vigne du Seigneur portera des fruits. Étant entendu, en tout cas au début de l'Église, l'Église est composée de gens venus aussi bien du judaïsme que du monde païen. Mais toujours est-il que c'est cette Église réunissant juifs et païens qui donnera désormais à la vigne de produire son fruit et d'être remis à qui de droit. Et puis, les trois terminent en disant que les interlocuteurs ont bien compris qu'il s'agissait d'eux. Matthieu dit, ayant entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent qu'il parle d'eux. Ils cherchaient à s'emparer de lui, mais ils eurent peur des foules. Chez Marthe, ils cherchaient à s'emparer de lui, ils eurent peur de la foule, ils avaient bien compris en effet que c'était pour eux qu'il avait dit la parabole. Et chez Luc, ils cherchèrent, les scribes et les chefs des prêtres, à mettre la main sur lui, mais ils eurent peur du peuple, ils avaient compris en effet que c'était pour eux qu'il avait dit la parabole. Donc là, unanimité des trois synoptiques pour dire que les interlocuteurs de Jésus, dans le contexte où est énoncée la parabole, comprennent très bien que ce sont eux qui sont interpellés et visés. Ça ne fait évidemment que renforcer l'endurcissement de leur cœur, puisque plutôt que de se reprendre, ultimement, ils vont persévérer dans leur projet. C'était donc deux paraboles engageant l'image de la vigne, les ouvriers de l'Alzheimer, les vignerons homicides. Puis nous avions vu deux parabole plus brève, engageant l'image du figuier, qui intervient dans certains épisodes, mais qui intervient aussi dans un langage parabolique. Le figuier qui annonce l'été, perspective d'espérance, que l'on trouve de nouveau chez les trois synoptiques, avec une petite différence chez Luc, qui ne parle pas simplement, comme Matthieu et Marc, du figuier, apprenez la parabole, mais il dit, chez Luc, voyez le figuier et tous les arbres, parce que ses interlocuteurs, justement, étant plus d'un monde plus large que la seule Palestine, ne connaissent pas nécessairement bien les figuiers, le figuier et tous les autres arbres, quand ils bourgeonnent déjà, en les regardant, vous savez que l'été est proche. Tandis que, pour ceux qui connaissent le figuier, ils savent que c'est les branches qui deviennent tendres et les feuilles qui poussent qui sont le signe de l'approche de l'été. Puisque le fruit même, la figue, semble-t-il, je ne suis pas connaisseur, mais je vous l'ai dit, il n'est pas très visible à première vue. Mais Luc alors termine en disant, à la différence de Matthieu et Marc, il dit simplement, quand vous verrez tout cela, sachez que c'est proche, on peut comprendre le royaume, la venue du Christ, ça reste un peu indéterminé, mais Luc précise, vous, même quand vous verrez arriver cela, sachez qu'il est proche, le royaume de Dieu. Ça, c'est l'image engagée comme le figuier, comme encourageant à l'espérance, et dans le prolongement, Jésus dit, chez les trois, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Puis, une autre image s'appuyant sur la réalité du figuier, c'est la parabole du figuier stérile, que l'on trouve en Luc seulement, au chapitre 13, et nous nous souvenons qu'elle voyait la patience de Dieu sollicitée de la part de l'ouvrier qui cultive pour que lui, Dieu, le maître, accepte de patienter encore un an, qu'on mette du fumier autour, et peut-être pourra-t-il porter du fruit. Là, on voyait bien chez Saint-Luc que ça sollicitait le temps de la patience de Dieu comme un ultime délai pour la conversion, en quelque sorte. Ceci pour rappel de ce que nous avons vu la fois passée. Nous voyons, si vous voulez, la parabole du bon samaritain, dont vous avez le texte sur la page 44 que je vous avais donnée en son temps. Et bien sûr, nous la lisons au seul endroit où elle se trouve, à savoir en Saint-Luc, au chapitre 10, les versets 25 et suivants. Je la relis. Jésus vient de dire à ses disciples, « Heureux les yeux qui regardent ce que vous regardez. » Je vous le dis, de nombreux prophètes et rois voulurent voir ce que vous regardez et ne le virent pas, entendre ce que vous entendez et ne l'entendirent pas. Les disciples ont déclaré à cet endroit-là heureux d'assister ainsi à ce que Jésus fait et d'entendre ce qu'il dit. Nous avons rencontré, ce binôme du regard et de l'écoute, nous le savons chez Matthieu, dans le cadre des paraboles, à la faveur de la citation d'Isaïe, qui invitait à avoir le regard, les oreilles et surtout le cœur ouvert. Et après ce verset, un peu abruptement, apparaît alors la parabole du bon samaritain sollicitée par une question qui n'est pas de pleine bienveillance de la part de celui qui l'adresse à Jésus. Je lis d'abord, et voici, un certain légiste se dressa le mettant à l'épreuve, en disant « Rabbi, et en fait quoi hériterai-je d'une vie éternelle ?» Celui-ci dit à son adresse « Dans la loi, que se trouve-t-il écrit ? Comment lis-tu ?» Or, ayant répondu, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur entier et en ton âme entière et en ta force entière et en ta pensée entière. » et ton prochain comme toi-même. » Or, il dit, tu répondis correctement. Fais sans cesse ceci et tu vivras. Celui-ci, voulant se justifier lui-même, dit à l'adresse de Jésus, et qui est mon prochain ? Ayant repris la parole, Jésus dit, un certain homme descendait de Jérusalem vers Jéricho, et il tomba par hasard sur des brigands, qui, et l'ayant déshabillé et lui ayant imposé des coups, s'éloignèrent, l'ayant laissé à demi-mort. Or, par hasard, un certain prêtre descendait dans ce chemin-là, et l'ayant vu, passa de l'autre côté. Or, semblablement, un lévite aussi, arrivé, étant venu par ce lieu, l'ayant vu, passa de l'autre côté. Or, un certain samaritain, cheminant, vint à lui, et l'ayant vu, fut ému de compassion. Et s'étant avancé, il banda ses blessures, y versant de l'huile et du vin. Et l'ayant fait monter sur sa propre monture, il le mena à une hôtellerie et prit soin de lui. Et le lendemain, ayant tiré 2 deniers, il les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, moi, quand je reviens, je te le rendrai. » Qui de ces 3 te semble-t-il se trouve être devenu prochain de celui qui est tombé plein sur les brigands ? Celui-ci dit « Celui qui fit la miséricorde avec lui. » Or Jésus lui dit « Fais route et toi, fais semblablement. » Or, pendant que eux faisaient route, Jésus entra dans un certain village, etc. Donc Jésus fait route vers Jérusalem. Mais il met en scène, en réponse à la question du légiste, un homme qui est saisi par les brigands et près duquel vont passer des gens qui descendent de Jérusalem. Mais reprenons au début, voici un certain légiste. C'est un homme qui connaît la loi. D'où, évidemment, la pertinence de la question de Jésus au verset suivant. Dans la loi, que se trouve-t-il écrit ? Comment lis-tu ? Il va pouvoir répondre à la question de Jésus. Un certain légiste le dresse. Et il veut mettre Jésus à l'épreuve. Et puis, plus loin, on verra que Jésus ne se laisse pas démonter, répond paisiblement. Et pourtant, l'homme, au verset 29, il veut se justifier lui-même en demandant « Et qui est mon prochain ?» On a vu comment, en Saint-Luc, souvent, ceux qui veulent se justifier eux-mêmes n'entrent pas dans le projet de Dieu. C'est Dieu qui justifie l'homme. Ça avait été dit à propos du publicain. Suite à sa prière dans le temple, il était rentré chez lui justifié, à la différence du pharisien orgueilleux dans sa prière. Ceci pour dire que l'attitude de l'homme, du légiste, est quand même pas tout à fait bienveillante vis-à-vis de Jésus, ni ouverte. Et donc, la manière dont Jésus répond jusqu'au bout avec patience et douceur est déjà comme une mise en œuvre de la charité recommandée. « Rabbi, ayant fait quoi hériterai-je une vie éternelle ?» C'était la question aussi du jeune Ambris, il faut vous en souvenir. Jésus lui répondit « Dans la loi, que se trouve-t-il écrit ?» Puis il ajoute « Comment lis-tu » Il ne suffit pas de savoir ce qui est écrit, Jésus veut savoir comment il le comprend, comment il le lit. Il répond « Et il répond d'abord en donnant les paroles tirées du Deutéronome au chapitre 6, le verset 5. Vous savez que le Deutéronome au chapitre 5, on a une version du Décalogue. Et puis au chapitre 6, on a cet important passage qu'on appelle le Chemin Israël. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Et dans la foulée, ces versets, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. Donc, c'est une prière prié quotidiennement par le juif. Ces versets sont vraiment connus parfaitement. Mais alors, l'homme va aller ajouter, tout comme on le voit quelquefois en Matthieu aussi, un autre verset tiré d'un autre livre, non plus du Deutéronome, mais d'un autre livre, de cette première partie de la Bible qu'on appelle le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, non Deutéronome. Et ici, après la citation du Deutéronome, on vient à une citation du Lévitique, en son chapitre 19, le verset 18. Vous avez la référence. L'amour de Dieu et puis l'amour du prochain. Alors il est intéressant d'aller voir dans le livre du Lévitique dans quel contexte ce commandement intervient. Je prends le texte au livre du Lévitique, 19. « Moïse est chargé de transmettre au peuple des prescriptions morales et cultuelles. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle à toute la communauté des Israélites, tu leur diras, soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. » Le livre du Lévitique est très préoccupé par toutes les questions de sainteté, de pureté, on le relève. Alors, il y a une série de prescriptions, et puis, au verset 11, je lis, « Nul d'entre vous ne commettra vol, dissimulation ou fraude envers son compatriote. » Et c'est le terme de « plésion ». Accusatif, c'est « plésios » en grec, puisque Luc, écrivant son évangile en grec, a aussi en tête la version grecque de l'Ancien Testament, pour ça je signale ce terme dans le grec, envers son compatriote, et qui est rendu tantôt par compatriote, tantôt par prochain. Puis un peu plus loin, au verset 15, « Vous ne commettrez point d'injustice en jugeant, vous ne ferez pas exception des personnes, c'est selon la justice que tu jugeras ton compatriote. Tu n'iras pas diffamer les tiens. » Et mettra pas en cause le sang de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu n'auras pas dans ton cœur de haine pour ton frère. Tu dois réprimander ton compatriote. Et ainsi, tu n'auras pas la charge d'un péché. Verset 18. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, on voit dans tout ce passage que le prochain dont il est question dans le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est quand même un frère de race, un compatriote, un voisin. Mais un peu plus loin dans le texte, il y a une ouverture qui nous prépare à l'évangile que nous sommes en train de... la parabole évangélique que nous sommes en train de lire, où précisément, c'est un étranger au peuple, en fait, dans la mentalité de l'époque, un samaritain, qui va, à la différence des prêtres et des lévites juifs, savoir qui est leur prochain. En effet, plus loin dans le livre du Lévitique, il dit, « Si un étranger, cette fois, plus compatriote, réside avec vous dans votre pays, vous ne le molesterez pas. L'étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote. » Alors là, on voit justement la catégorie du compatriote, du prochain, s'élargit à l'étranger. « Car vous avez été étrangers au pays d'Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu. » Donc, dans ce chapitre du Lévitique, dont est tirée la prescription « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », on comprend que le prochain en question est au premier chef le compatriote, le frère de race, celui de son peuple, mais aussi qu'est déjà pratiquée une ouverture vers un prochain plus large. Et c'est important pour bien interpréter la parabole, puisque l'homme demande « Et qui est mon prochain ?» en voulant se justifier lui-même. Avant ça, Jésus a dit « Tu as répondu correctement, fais ceci et tu vivras. » Là, c'est un autre verset du Lévitique, un petit peu avant, qui est convoqué, qui insiste sur le fait que le faire, la mise en pratique des commandements, et source de vie. Fais cela et tu vivras. Et c'est important dans un contexte où on va tomber sur un homme à demi-mort. Fais ceci et tu vivras. Par parenthèse, saint Paul exploite fortement ce verset du Lévitique en disant le Lévitique dit « Celui qui fait tous les commandements de la loi vivra », mais, argumente saint Paul, on n'arrive jamais à faire tous les commandements de la loi. Et donc, comment va-t-on vivre? Il faut aller chercher un autre verset de l'Écriture qui dit « Le juste, il vivra par la foi. » Donc, la vie, si on n'arrive pas à la trouver en observant parfaitement tous les commandements, on peut la trouver en la recevant de la foi en Jésus qui, justement, fait miséricorde au-delà de notre incapacité à observer la loi. Je ferme cette petite parenthèse paulinienne sur l'importance de ce verset du Lévitique. Fais ceci, en l'occurrence ici les commandements de l'amour, de la loi, et tu vivras. Celui-ci, donc, voulant se justifier lui-même, Jésus a dit ailleurs dans l'Évangile, vous êtes, vous les pharisiens, de ceux qui veulent se justifier eux-mêmes. Qui est mon prochain? Et on l'a vu, il est bon de poser la question. Simplement le frère de son peuple, mais Jésus va faire comprendre à travers la parabole, non. Ayant répondu, Jésus dit, un certain homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. De fait, Jérusalem, c'est quand même dans les collines de Judée, à plus de 1000 mètres d'altitude, et Jéricho, c'est là, au bas du Jourdain, qui plus tard ira se jeter dans la mer Morte, et c'est un endroit presque déjà plus bas que le niveau de la mer. Il faut mesurer le dénivelé que ça représente. Donc, quand on monte ou qu'on descend ce chemin, c'est un chemin escarpé. Et un chemin escarpé dans lequel, justement, dans les rocailles qui bordent le chemin, peuvent se cacher des brigands. Un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Il tomba par hasard sur des brigands, on connaît le reste, et il le laisse à demi-mort. Emitadé, à moitié mort dans le grec. La Vulgate, la traduction latine de la Bible, a traduit « semi-vivo relicto », laissé à moitié vivant. Hein? Le texte dit littéralement « à moitié mort », mais la Vulgate a traduit « à moitié vivant ». Mais la note « à moitié mort » est importante pour comprendre la réaction alors du prêtre et du lévite qui vont descendre aussi. Par hasard, un certain prêtre descendait dans ce chemin-là. Et l'ayant vu, donc il revient de Jérusalem, le prêtre. Il a peut-être accompli son service de prêtre au temple, là-bas. De même, le lévite aussi, on va nous dire qu'il descend. Il arrive par le lieu, etc. Et de chacun, il est dit qu'il voit. L'ayant vu, eh bien lui, il passa de l'autre côté. Semblablement un lévite, l'ayant vu aussi, passa de l'autre côté. Alors, l'arrière-fond du Lévitique au chapitre 21, souvenez, on avait Lévitique 19, Lévitique 18, Lévitique 21, donc on navigue un peu dans ce livre pour le moment, en termes d'arrière-fond, est important pour comprendre la réaction du prêtre et du Lévite. C'est la question d'un cadavre, soit d'un homme déjà mort, soit d'un homme mourant. Et qu'est-il dit dans les prescriptions très précises pour les prêtres, en Lévitique 21, verset 1, « Parle aux prêtres enfants d'Aaron, dit Dieu à Moïse, tu leur diras, aucun d'eux ne se rendra impur près du cadavre, même de l'un des siens, sinon pour sa parenté la plus proche, mère, père, fils, fille, frère, etc. » Et puis le grand prêtre, la prescription est plus forte au verset 11. Il ne viendra près du cadavre d'aucun mort, là de manière absolue, même que si c'est, et ne se rendra impur, ni même pour son père, ni pour sa mère. Donc, interdiction formelle au grand prêtre d'approcher un cadavre. Aux autres prêtres, exception peut-être pour père leur mère. Mais en l'occurrence, évidemment, ceux qui tombent là sur une personne qu'ils ne connaissent pas, évidemment, mettent en œuvre la prescription de Lévitique et passent de l'autre côté. Autrement dit, dans la loi que lis-tu, comment lis-tu? Ben, ils lisent la loi de manière tout à fait littérale, alors que Jésus, en d'autres passages, fait comprendre que la loi demande à être interprétée et souffre des exceptions quand il est question de vie et de mort. Qui de vous, le jour du sabbat, ne va-t-il pas rechercher son fils qui est tombé dans un puits? Là, la vie importe, est-il permis le jour du sabbat de sauver une vie, oui ou non, a demandé Jésus. Eh bien ici, même si le Lévitique enjoint de se garder d'impureté, eux ne veulent pas prendre le risque d'approcher un homme mourant, un cadavre. De même pour le Lévite, c'est dans les prescriptions pour les prêtres et les Lévites, on dit là, en nombre 19, qu'il s'agit d'éviter tout contact non seulement avec un cadavre, mais non, même avec un homme qui se meurt. Si un homme est en train de mourir dans une tente, eh bien tu n'entreras pas dans la tente. Il laissera mourir purement et simplement. Donc c'est quand même des lois de pureté très, très strictes et quand même très, très sévères. Or, un certain Samaritain, cheminant, vint à lui, et l'ayant vu, eh bien, lui, il fut ému de compassion. pris aux entrailles, littéralement. C'est un verbe qui a été utilisé dans la rencontre de Jésus avec la veuve de Naïm. Jésus est pris de compassion pour cette veuve qui a perdu son fils unique. Pour le père du prodigue, lorsqu'il voit revenir son fils au chapitre 15, il est saisi de compassion. Il s'avance, il bande ses blessures, le soigne, le mène à une hôtellerie et il prend soin de lui. Puis le lendemain, il le confie à l'hôtelier. Donc on voit qu'il va jusqu'au bout de sa démarche. Il ne se contente pas de le soigner en passant, mais il veut vraiment prendre en charge cet homme et le mettre entre bonnes mains. Et lorsqu'il repassera, il s'enterrera de lui, il payera l'hôtelier. Ici, l'arrière-fond qui vous est signalé du deuxième livre des Chroniques est également intéressant. C'est au deuxième livre des Chroniques, au chapitre 28. Il y a un conflit entre les habitants du nord, les Samaritains, et les habitants du sud, les Judéens, les hommes de la tribu de Juda. Et on dit que des hommes du royaume du nord tuent en un seul jour 120 000 hommes en Juda, tous vaillants, etc. Les Israélites, donc ceux du nord, firent à leurs frères 200 000 prisonniers, femmes et fils, et ils emmenèrent le tout à Samarie. Mais alors, au verset 9, il y avait là un prophète du Seigneur nommé Odette. Et que va-t-il dire à ces Samaritains qui, en l'occurrence, sont vainqueurs et ont fait des Judéens prisonniers? Il sortit au-devant des troupes qui arrivaient à Samarie et leur dit « Voici que le Seigneur, le Dieu de vos pères, a livré les Judéens entre vos mains, parce qu'il était irrité contre eux. Mais vous les avez massacrés avec une telle fureur que le ciel en est atteint. Et vous parlez maintenant de réduire les enfants de Juda et de Jérusalem à devenir vos serviteurs et vos servantes. » Alors en l'entendant, parmi ses interlocuteurs, comprennent bien le reproche qu'il aurait fait d'une violence trop grande vis-à-vis de ces Judéens. Et certains disent, « Vous ne ferez pas entrer ici ces prisonniers, donc vous ne ferez pas entrer à Samarie ces prisonniers pris dans le royaume du sud, en Juda, car c'est de nous rendre coupables envers le Seigneur que vous parlez. C'est ajouter à nos péchés et à nos fautes, alors que notre culpabilité est énorme et qu'une ardente colère menace Israël, les hommes du Nord qui ont fait preuve de tant de violence. L'armée abandonna alors les prisonniers et le butin en présence des officiers et de toute l'assemblée. Mais des hommes qui avaient été nominativement désignés se mirent à réconforter les prisonniers. Prélevant sur le butin, ils habillèrent tous ceux qui étaient nus. Ils les vêtirent, les chaussèrent, les nourrirent, les désaltérèrent et les abritèrent. Puis ils les reconduisirent, les éclopés montés sur des ânes, et les amenèrent auprès de leurs frères à Jéricho, la ville des palmiers. Puis ils rentrèrent à Samarie. Donc on voit un exemple de Samaritains qui, secoués par les reproches du prophète, se mettent à prendre soin de prisonniers du royaume du nord, de Judée, comme ils se comportent en quelque sorte en bon samaritain, et vous l'avez entendu, prennent vraiment soin d'eux, les reconduisent et les ramènent près de leurs frères à Jéricho. Ça se passe quand même à Jéricho, dans le contexte où est énoncée la parabole. Donc c'est un arrière-fond que le légiste qui connaît bien l'écriture peut saisir. Et qui lui rappelle que déjà dans l'Ancien Testament, il y a un exemple de bonne conduite d'un Samaritain attentif ainsi à ceux qui sont malmenés et mal en point. Il répond d'ailleurs justement à la question de Jésus, qui des trois est devenu le prochain de celui tombé sur les mains des brigands. Alors vous voyez que la perspective a été changée. Qui est mon prochain? Et la finale, comment te fais-tu le prochain de celui, quel qu'il soit, qui est mal en point? Pas simplement qui est mon prochain, mais c'est tout homme, si tu arrives, toi, à te faire le prochain de tout homme, qu'il soit de ton peuple, qu'il soit un étranger. Il répond avec justice, mais celui qui a fait miséricorde, c'est celui-là des trois qui s'est fait le prochain. Et Jésus lui répond, fais route et toi, fais de même. Alors cette belle parabole, bien sûr, est très riche. Les pères de l'Église ont interprété allégoriquement les traits en disant que l'hôtellerie qui accueille les blessés, les éclopés, c'est l'Église qui soigne, qui doit prendre soin de tous les pécheurs, etc. Parfois, on interprète en disant mais le blessé qui est au bord du chemin, mal en point, roué de coups, ben c'est Jésus lui-même qui va être malmené. Mais plus souvent, évidemment, on voit dans le bon samaritain aussi comme une figure de Jésus lui-même qui, tout son ministère, spécialement dans l'évangile de Luc, se fait proche de tous les pauvres, les éclopés, les blessés, les malheureux. Et comme je le disais au passage, il me semble que Jésus, dans ce passage, dans son attitude même vis-à-vis de celui qui le questionne pour le mettre à l'épreuve puis pour se justifier lui-même, à travers le calme avec lequel il lui répond, il lui laisse parler, il lui donne la parole pour bien interpréter l'histoire et se contente de lui dire « fais de même », mais il le renvoie un peu, sans ayant fait de graves reproches à cet homme, mais en l'ayant quand même mis en vérité par rapport à la question qu'il posait de manière un peu mal intentionnée. Et finalement, sans doute que la réponse de Jésus l'aura profondément éclairé et l'attitude de Jésus sans doute touchée. Voilà pour cette belle parabole. Alors, je vous avais mis encore deux petite parabole sur la page 45, cette fois, je crois, la dernière page de texte que je vous avais donnée, c'est les images, c'est pas des paraboles très développées, c'est plutôt des images, du vêtement rapiécé et des outres qui doivent accueillir du vin nouveau. Je les évoque simplement rapidement, à partir du texte de la synopse, puisque de nouveau ce sont deux images que l'on trouve chez les trois synoptiques. On la prend en Matthieu 9, et chez les trois, elles interviennent dans le même contexte. Jésus vient de dire « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs ». Aussi bien chez Matthieu que Marc, que je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la conversion, dit Jésus, en réponse à ceux qui s'étonnent de le voir manger avec les publicains et les pécheurs. Alors, il y a eu la question de avec qui Jésus prend son repas, les publicains, les pécheurs. Il répond parce qu'il est venu précisément appeler les pécheurs. Et puis, on continue sur une question de nourriture, mais le fait, cette fois-ci, de manger ou non, la question du jeûne. Alors, s'approchant de lui, les disciples de Jean, je lis dans le texte de Matthieu, chapitre 9, s'approchèrent de lui, disant, « Pourquoi nous-mêmes et les pharisiens jeûnons-nous, mais tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Donc, on pose la question à Jésus concernant ses disciples. C'est parfois une manière un peu détournée de l'attaquer, de passer par le biais de ses disciples. Ou bien, on fait les reproches aux disciples concernant Jésus. Jésus leur dit, « Peuvent-ils, les compagnons de l'époux, mener le deuil tant que l'époux est avec eux ?» Là, tout d'un coup, il utilise une image forte où on doit comprendre qu'il se présente comme un époux et que ses disciples sont les compagnons de l'époux. Et cette image, on la retrouve chez Marc aussi, un peu plus loin. Peuvent-ils, les compagnons de l'époux, pendant que l'époux est avec eux, jeûner ? Et puis, chez Marc, on ajoute, aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent jeûner. Mais alors, chez les trois, viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ce jour. Donc, à ce moment-là du ministère de Jésus, il convient qu'il passe au-delà des prescriptions ou des exigences de jeûne que s'imposent les pharisiens ou les disciples de Jean, parce qu'à ce moment-là, prime pour lui, comme toujours, la charité due aux publicains et aux pécheurs. Et si c'est en partageant leur table qu'il va pouvoir les rencontrer, les remettre sur le chemin de Dieu, il n'hésite pas à le faire. Puis, ça c'est pour le contexte. Et donc, Jésus va enchaîner sur l'insistance à accueillir la nouveauté divine. Parce qu'évidemment, ce n'est pas commun de passer ainsi au-dessus des prescriptions de jeûne dont s'acquittent les disciples de Jean et des pharisiens. Et Jésus fait comprendre qu'il y a là, dans sa présence d'époux, comme il vient de se nommer, une nouveauté qui demande une attitude et une souplesse et une ouverture nouvelle. Personne ne rapièce avec une pièce d'une étoffe non foulée un vêtement vieux, car le morceau ajouté tire sur le manteau et la déchirure devient pire. Et ils ne mettent pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, en effet, les outres éclatent et le vin se répand et les outres se perdent. Mais ils mettent du vin nouveau dans des outres neuves et les deux se conservent. Le vin nouveau, c'est l'enseignement, l'attitude nouvelle de Jésus. Les outres neuves, c'est précisément la manière dont les cœurs doivent entrer dans de nouvelles attitudes pour l'accueillir. Marc et Luc prennent cela à quelques détails près. Luc, je le souligne, termine en ajoutant « Personne ayant bu du vieux ne veut du nouveau, car il dit « C'est le vieux qui est bon ». Autrement dit, il leur dit « Je comprends que vous soyez attachés à vos traditions, on a spontanément le réflexe de s'accrocher à ce qui s'est toujours fait, on a toujours fait comme ça, on entend ça souvent quand même, en disant « C'est le vieux qui est bon », Jésus fait comprendre qu'il va y avoir un vin nouveau, et qui sera peut-être encore meilleur que le vieux. Souvenez-vous des noces de Cana quand même. Tout le monde sert d'abord, et puis toi tu as réservé le bon pour la fin. Donc simplement ici je ne m'attarde pas davantage, mais c'est pour évoquer ces deux images dans lesquelles Jésus invite à comprendre qu'à la nouveauté du royaume, de sa venue, de ses paroles, de ses gestes, il convient d'adopter une attitude, un cœur, une approche de réceptivité nouvelle. Nous avons vu 39 paraboles. J'aurais pu ajouter, pour parfaire le chiffre, arriver à 40, une dernière qu'on n'a pas vue, c'est le retour de l'esprit impur, qu'on trouve en Matthieu 12 et en Luc 11, qui fait comprendre, dans le contexte où Jésus interpelle cette génération qui l'entoure en la qualifiant de génération mauvaise, méchante, parce qu'ils ont commencé à s'ouvrir à son message et puis après se sont fermés en réclamant un signe, et Jésus répond, il ne sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. Et pour les mettre en garde contre cette rechute après une première ouverture, l'endurcissement d'une génération mauvaise qui hésite vraiment à se convertir, il leur dit, attention, lorsque l'esprit impur a été chassé une première fois, et ça a été le fruit de leur première ouverture à la prédication, si vous ne demeurez pas dans cette attitude de conversion, il va revenir avec cet autre esprit plus fort que lui, et la situation de cet homme sera pire à la fin qu'au début. Donc ça intervient dans le cadre d'une interpellation de Jésus à ce qu'il appelle cette génération mauvaise qui n'arrive pas à se décider de manière plus décisive pour la conversion qui est demandée. Il nous reste un quart d'heure. Je donne quelques éléments brefs de synthèse, mais je crois que le fait d'avoir lu ensemble ces paraboles, et déjà par la force des choses, nous fait entrer dans des perspectives, des interpellations récurrentes. Je relis d'abord un premier point, je soulignerai, vous l'aurez remarqué, le fait imposant du langage en parabole fort utilisé par Jésus dans les évangiles. Quand même une quarantaine de paraboles, ce n'est pas peu de choses. Et nous l'avons pu pratiquement les parcourir, pas en allant dans tous les détails, mais en voyant le cadre et en relevant quelques expressions plus importantes. L'importance dans la bouche de Jésus de ce langage en parabole qu'il semble quand même avoir utilisé assez massivement lorsqu'il parlait aux foules. En présence de ses disciples, et ses disciples bénéficiaient, bien sûr, comme on l'a vu souvent, d'une explication supplémentaire, puisque le langage parabolique, on comprend l'histoire énoncée dans son sens littéral, mais pour comprendre la portée de l'histoire énoncée, pour bien l'interpréter, là, il faut aller plus loin. Et c'est Marc qui nous dit en son chapitre 4, la fréquence et presque l'exclusivité de ce type de langage de la part de Jésus pour les foules. C'est en Marc au chapitre 4, qui est chez Marc le chapitre des paraboles, il n'y a que trois paraboles chez Marc à la différence de Matthieu, mais en tout cas la parabole fondamentale bien sûr du semeur. En Marc au chapitre 4, au verset 13, Jésus a dit, je prends ce verset, à propos de la première parabole, vous ne saisissez pas cette parabole, comment connaîtrez-vous toutes les paraboles? Donc c'est vraiment la parabole fondatrice. Et puis, peu après avoir expliqué la parabole, il va dire au verset 33 et 34, en conclusion du discours, l'évangéliste nous dit, saint Marc, « Par de nombreuses paraboles semblables, il leur parlait la parole selon ce qu'ils pouvaient entendre. Et sans parabole, il ne leur parlait pas. Mais à l'écart, à ses propres disciples, il expliquait tout. » Donc c'est en Marc 4, 34 qu'on a quand même cette déclaration importante du narrateur évangélique qui nous dit ben, « Jésus parlait pratiquement uniquement en parabole aux foules. » En tout cas, chaque fois qu'il prenait la parole en présence des foules, eh bien, à un moment donné, il entrait dans le langage parabolique. C'est dire, bien sûr, la force du langage imagé, la force d'imagination aussi de Jésus, qui bien sûr, on l'a vu, peut puiser dans le trésor de l'Ancien Testament, les arrière-fonds, mais a dû être un créateur de paraboles, un novateur quand même considérable. Souvenez-vous de la manière de langage imagé du cardinal Danels, il avait quand même souvent le sens de l'image dans cette perspective. Voyez la manière dont le pape François parle. Il a quand même des trouvailles au point de vue image, des comparaisons, souvent brèves, en deux, trois lignes, qui font réfléchir. Et Jésus avait cette capacité. Alors certains prédicateurs, moi ce n'est pas mon fort spécialement, mais certains prédicateurs ont le talent de trouver des images parlantes. Je crois que c'est dans Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, que le pape recommande aux prédicateurs d'avoir une idée, une image, il dit. Toujours. Et donc, ceci simplement pour rappeler l'importance du langage parabolique dans les évangiles que nous avons parcourus. Puis, je vous invite, je ne vais pas le faire ici, à relire la feuille du vocabulaire de théologie biblique que je vous avais donné au début. Je vous avais donné l'un ou l'autre extrait. Et à la fin, Xavier Léon Dufour, l'auteur de cette notice dans le vocabulaire de théologie biblique, avait un paragraphe sur les paraboles dans l'Évangile et puis sur l'interprétation des paraboles. Nous l'avons lu au début, tout début du cours. Je vous engage à le relire parce qu'à la lumière de ce que notre parcours, ce qu'il dit va prendre davantage de relief, puisque vous avez désormais en tête un certain nombre de choses qu'il y dit et il donne aux référents. Des références au passage, n'hésitez pas à avoir votre Bible sous la main et à feuilleter, vous allez retrouver des tas de versets que nous avons approfondis. Donc, dans cet article intitulé « Parabole » tiré du VTB. Nous avons vu aussi, c'est un autre point que je souligne, donc tout d'abord, je dirais le fait imposant du langage parabolique dans la bouche de Jésus, le conseil, deuxièmement, d'aller lire le petit topo de Xavier Léon Dufour. Troisièmement, l'importance du contexte narratif où interviennent les paraboles, ça nous l'avons vu. Le contexte narratif, c'est sur la scène du récit évangélique et ce qui se passe sur la scène du récit évangélique est éclairé par ce qui se passe sur la scène du récit parabolique que Jésus énonce. On a vu l'un ou l'autre exemple type. J'en retiens deux qui sont frappants. Celui des vignerons homicides, qu'on a rappelé, il a lieu dans le contexte de la montée vers Jérusalem. Et c'est dans ce contexte que l'on comprend la force d'interpellation de Jésus qui annonce que le fils même du maître de la vigne va être malmené, blessé, mis à mort, et cela hors de la ville. Donc le rapport entre ce que l'on voit sur la scène de la parabole, ces vignerons homicides, et ce que l'on va voir sur la scène du récit évangélique, la mise à mort de Jésus lui-même dans sa passion. Voilà un exemple évidemment particulièrement frappant. Un autre exemple que nous avions vu, c'était chez saint Luc, au chapitre 7, où on avait un beau cas d'un récit parabolique qui est comme enchâssé à l'intérieur du récit évangélique. C'est-à-dire, on commence l'épisode, Jésus est invité par un pharisien, il est à sa table, la pécheresse s'approche, hein, elle pose des gestes, le pharisien pense en lui-même, mais cet homme, s'il savait qui est cette femme, etc. Et à un moment donné, Jésus dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et il raconte une parabole de deux débiteurs qui met en scène deux débiteurs, ben, on va comprendre après, qui représente celle qui devait une forte dette, c'est la pécheresse, elle est graciée, et celle qui croit ne devoir rien, mais qui est quand même débiteur, même si c'est de moins, c'est le pharisien. Et puis on va revenir à l'épisode évangélique, c'est-à-dire la conclusion, où Jésus renvoie la femme et l'épisode du repas chez Simon se termine. Mais là, donc les paraboles énoncées dans le cadre du repas sont là pour illustrer l'attitude même de Simon par rapport à cette femme dans le cadre de ce repas et l'inviter, on l'a vu, à accueillir lui aussi la miséricorde qui lui est faite puisqu'il s'agit de deux débiteurs. Il était également débiteur comme la femme qu'il juge de haut. Et il doit lui aussi savoir que la miséricorde lui est offerte et qu'il doit s'y ouvrir. Donc ça, c'était pour rappeler l'importance du contexte dans lequel les paraboles sont énoncées. On l'a vu plusieurs fois. Hein, le fils prodigue dans le cas des murmures contre le bon accueil réservé par Jésus aux pécheurs. Dans un quatrième point que je soulignerai, c'est comment dans le bien propre de Marc et surtout de Luc, nous avons pu dégager à travers les paraboles des thématiques propres. Déjà, ces thématiques, ces accents favorisés par le récit de Luc émergent dans le récit évangélique, dans les épisodes qui se passent, les épisodes indirects. Mais ces thématiques se laissent dégager aussi de ces épisodes secondes qui interviennent à l'intérieur de paraboles. On a vu chez saint Luc des paraboles qui insistent sur l'endurance dans la prière, par exemple. Des paraboles qui insistent sur l'invitation à se détacher des biens matériels et à partager. Des paraboles engageant à l'humilité, le pharisien, le publicain, ceux qui cherchent les premières places dans les festins, c'est l'occasion d'une parabole. Des paraboles insistant, c'est le cas du bon samaritain bien sûr, sur l'importance de la miséricorde et de la compassion. Voilà autant d'accents qu'on trouve dans l'évangile de Luc en général, mais qu'on retrouve également à l'intérieur même du genre parabolique. Un dernier point que je soulignerai pour conclure notre parcours, enfin esquisser quelques lignes de conclusion, c'est de voir comment les paraboles touchent un monde de relations avant tout. Un monde de relations. Il y a la relation aux choses qui sont engagées. les biens, les richesses, une drachme perdue, du levain dans la pâte, un vieux vêtement rapiécé, une outre neuve. Donc il y a une relation aux choses, aux objets qui intervient dans la mise en scène des paraboles, aux animaux, les questions de brebis perdues et retrouvées, alors des poissons qui sont pris dans un filet. Il y a la relation aux végétaux, il y a des figuiers, il y a des vignes, bien sûr. Mais toujours, inséparablement de ce qui est plus important, à travers cela, la relation aux autres, aux personnes. Puisque la brebis perdue commence à figurer déjà le pêcheur qui va être retrouvé. La drachme perdue, c'est un objet, une relation à un objet, mais bien sûr, est engagée la question de la relation à l'autre, puisqu'on va comprendre plus tard que ça prépare à une personne perdue et retrouvée, le fils perdu et retrouvé. Et qu'autour de cette retrouvaille de la brebis et de la drachme est convoquée la relation avec les voisins et les voisines, réjouissez-vous avec moi. Donc un monde de relation aux choses, mais pas telle qu'en elle-même simplement, aux choses aussi dans la mesure où elles nous mettent en relation avec les autres. La relation aux autres, c'est la relation d'un père avec son fils, c'est-à-dire d'un maître avec son serviteur, d'invité à des noces, etc. Vous pourriez reprendre l'ensemble des paraboles que nous avons vues, toujours sont qualifiées un type de relation à des personnes. Celui qui se précipite pour prendre la première place au détriment des autres, etc. Les premiers seront derniers. Les relations, non seulement aux choses, au monde animal, au monde végétal, mais de manière plus centrale, aux autres. Et puis, sont engagés aussi dans les paraboles les relations à Dieu. Si, en vertu du lien entre les deux commandements qu'on vient de rappeler, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si il y a une relation insécable entre les deux, forcément, ce n'est qu'en étant en relation avec Dieu qu'on pourra être aussi en juste relation avec les autres. Et la relation à Dieu, elle est signifiée directement dans des paraboles qui invitent à persévérer dans la prière, puisque l'interlocuteur de la prière, cette veuve qui sollicite le juge, l'argument a fortiori, combien plus votre Père céleste, plus que ce juge même unique, eh bien, cédera-t-il à la prière confiante et insistante ? Donnera-t-il l'Esprit Saint, ceux qui le lui demandent ? Relation à Dieu aussi engagée dans le pardon à recevoir. J'ai rappelé à l'instant ce qui est dit à Simon le pharisien, il doit comprendre que, à travers Jésus, c'est la miséricorde même de Dieu qui vient aux hommes. Autrement dit, le monde des paraboles engage tout à fait nos relations coutumières aux réalités matérielles qui demandent à être partagées aux autres aussi, aux autres, le pauvre, le fils, le serviteur, etc., et à Dieu, à travers la prière, au pardon à recevoir et qui nous donne de pouvoir pardonner à notre tour aux autres. Vous voyez comment ces différents types de relations que je distingue ici, aux choses, aux autres, à Dieu, sont évidemment liées dans la vie spirituelle. Et les paraboles nous aident à le comprendre à travers la manière unifiée dont elles nous font entrer dans la nouveauté du royaume qui advient avec Jésus, et c'est pourquoi c'est Jésus seul qui raconte des paraboles. À première vue, je n'ai pas trop réfléchi à la question, mais je ne vois pas qui d'autre dans les évangiles énonce une parabole ou une image. Sous réserve de vérification, je crois qu'on n'en entend que dans la bouche de Jésus, parce que comme il est en sa personne la nouveauté du royaume, comme il est le Fils qui nous révèle le monde nouveau du royaume de Dieu et des cieux, lui seul peut nous introduire à cette nouveauté à travers la force pédagogique du langage des paraboles, qui non seulement nous éclaire, nous l'avons vu, mais nous interpelle et nous demande d'entrer dans des attitudes, des regards, des écoutes, des comportements nouveaux. Les paraboles sont un enseignement, non pas théorique, réflexif, mais pour l'agir, l'attitude, la disposition concrète qui soit ajustée au projet de Dieu. Je vous remercie de votre attention dans le suivi de ce petit cours et j'essaierai de vous envoyer la page 15 ou 16, je ne sais plus, que j'avais envie de vous donner, de vous élaborer en son temps, qui manque dans votre dossier, qui est surtout bien sûr un dossier de texte, mais qui peut vous permettre vous-même, lorsque vous avez peut-être à expliquer à un enfant ou au catéchisme une parabole, eh bien, d'en être aidé. Merci et déjà une bonne fête de Noël.